Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner.
Donc bonjour à tous, je suis avec David Bessy qui est le fondateur de Tiny Clues. Et en fait on se connaît pas, enfin on s'est jamais vu avant en tout cas. Ce qui est rigolo c'est que je cherchais quelqu'un qui soit hyper pertinent sur l'intelligence artificielle et sur le machine learning. Et on m'a dit, et donc j'ai demandé à un gros expert déjà qui m'a dit non mais il faut absolument que tu rencontres David, c'est le mec le meilleur pour expliquer ce genre de problématiques. Donc je me suis dit... Mais contactons David Bessy. Et donc, nous voilà aujourd'hui pour discuter de machine learning, d'intelligence artificielle. Et tu as créé une boîte donc, qui s'appelle Tiny Clues, qui est assez unique en son genre. En tout cas, je ne connais pas trop de concurrents qui fassent la même chose, qui permet de faire du machine learning, du clustering, sans préjugés déjà, sans préjugés, sans biais des marketeurs, mais aussi sans cluster qui soit prédéfini, c'est ça?
Ouais, c'est ça. En fait, on travaille pour des marketeurs B2C qui vont avoir des très très grandes bases de données clients, donc des centaines de milliers, des millions, des dizaines de millions de clients, et plein de data points sur ces clients. Ils vont savoir comment ils s'appellent, où ils habitent, ce qu'ils ont acheté il y a un an, il y a cinq ans, quelle page ils ont vu il y a six mois, dans quel lien ils ont cliqué il y a trois semaines. Et on va utiliser l'ensemble de ces datas-là, anonymisées, pour leur permettre de cibler, d'optimiser leur animation commerciale.
D'accord. Alors du coup, avant qu'on commence, donc toi tu es mathématicien à l'origine.
Un vrai
mathématicien, tu n'es pas un businessman. Comment tu définirais l'intelligence artificielle et le machine learning? En deux mots, on ne va pas passer à 10 minutes à faire ça. Mais...
Le machine learning, c'est le nom de la discipline qui s'occupe des algorithmes qui apprennent à partir des données.
D'accord.
Ça, c'est assez simple. Mm-hmm. Il y a plein de classes d'algorithmes. Les plus simples, c'est la régression linéaire, qui ça doit exister depuis 150 ans. L'intelligence artificielle, c'est un peu plus flou ce que ça veut dire. Pour moi, c'est... ces technos-là, appliquées à un certain nombre de contextes, on va essayer d'émuler des choses un peu plus intelligentes que des règles un peu directes entre une cause et un effet. Mmh. Et notamment, il y a un concept qui pour moi est important dans l'intelligence artificielle, c'est le concept de sémantique latente. C'est des algos qui sont capables de comprendre le sens des choses, alors qu'on n'a pas fait rentrer le sens des choses dans l'algorithme.
D'accord. Par exemple ?
Par exemple... On prend chez un commerçant ou une marque qui a des centaines de milliers de clients. On prend les prénoms de ces clients. Mmh. On prend les produits. Mmh. Donc, il peut y avoir 100 000 variantes orthographiques de prénoms. Il peut y avoir 50 000 produits au catalogue. Ouais. L'énorme graphe qui relie les prénoms et les produits avec combien de fois une arête à chaque fois qu'une personne avec ce prénom a acheté ce produit, il a une forme qui dit des choses sur la société. Par exemple, on va se rendre compte qu'il y a une séparation de la société assez forte entre deux groupes, d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. Mais ce n'était pas dans le problème de départ. Et si on dit, essaye d'expliquer les patterns d'achat à partir de deux dimensions, l'algo va dire, il y a un truc important, et on va se rendre compte que c'est que des prénoms masculins, et l'autre truc, c'est que des prénoms féminins.
D'accord.
Et si on demande d'expliquer ça avec non plus deux, mais peut-être une centaine d'axes différents, on va se rendre compte que ces axes, quand on va lire les prénoms qui apparaissent sur ces axes, on va se rendre compte qu'il y a des trucs qui sont assez marrants. Gonzague, il va pas être sur n'importe quel axe, il va être sur un axe assez précis. Marie Chantal aussi, etc. Et on va se rendre compte qu'il y a des styles, des générations, des milieux, tous ces trucs-là, et on les avait pas mis comme données de départ.
C'est marrant parce que quand tu dis ça, je pense que la réaction des gens qui vont écouter peut-être, c'est de dire, ouais, enfin bon, c'est avoir vraiment des énormes préjugés sur les gens. Que de penser que parce que tu t'appelles Gonzague, tu consommes de telle manière, ou parce que tu t'appelles Marie-Chantal, tu consommes de telle manière, voire même parce que t'es une femme, tu consommes de telle manière, ou parce que t'es un homme, tu consommes de telle manière. Mais justement, ce que je trouve intéressant dans votre approche, c'est que vous êtes anti, enfin, vous essayez de justement pas être dans le biais, en fait.
Exactement.
Tu peux expliquer peut-être pourquoi, ou comment ça marche?
L'exemple que j'ai pris, si on creuse, donc, on dit il y a des patterns d'achat entre des prénoms et des codes et des produits enfin de toute façon on va faire ça à l'échelle de toutes les données, donc ouais, des prénoms, des liens, des pages, des devices, tout ce qu'on veut, quoi. Des produits, des catégories, des sous-catégories, des couleurs, des liens de tracking, enfin tout ça on va essayer de le caractériser, mais on va jamais dire essaye de ramener ce prénom à ces classes sociales prédéfinies.
Non,
on fait pas rentrer ça, on va l'apprendre purement à partir des données.
D'accord.
Et à partir du moment où on voit que l'algorithme est capable de prédire de façon super efficace les patterns d'achat au travers de sa représentation interne de ce que c'est que la sociologie, on dit que cette sociologie qui a été construite tout seul par l'algorithme, elle est pertinente. Finalement, la performance de l'algorithme est une mesure de sa pertinence.
D'accord.
Mais on ne va pas chercher à comparer avec des préjugés qu'on avait. On ne fait jamais rentrer ces préjugés.
D'accord. Donc, et en fait, t'as déjà vu des surprises, enfin des choses qui étaient surprenantes ?
Moi, ce qui m'a surpris le plus, c'est le niveau de détail. Parce que moi, je suis mathématicien, je viens pas du marketing et je viens pas non plus de la sociologie. Si j'ai fait des maths pures, c'est que l'idée de savoir comment prouver les choses, c'était un truc qui m'intéressait. J'ai fait ça quand même pendant 10 ans après ma thèse, donc on va dire que j'ai passé
un peu de temps.
Et ce qui a fait que je suis tombé amoureux de ces algorithmes-là, c'est de voir à quel point ils étaient pertinents. Alors l'exemple le plus caricatural, mais qui est vrai, hein, c'est une démo qu'on avait, où on avait travaillé sur les pseudos que les gens choisissent. Donc quand on prend un nom d'utilisateur, on peut choisir un pseudo.
Bien sûr.
Donc il y a des gens qui vont prendre des pseudos dans des univers, ils peuvent mettre leur prénom, mais ils peuvent aussi prendre boulangerie ou boucherie, ou ils peuvent prendre Pitchounette ou Yoda, etc. Et avec ces algos, sans aucune intervention humaine, on a associé à chacun de ces pseudos un vecteur avec un certain nombre de dimensions qui capturait toute l'information sociologique sur ça. Et ça donnait un moteur de synonyme, parce que si on prend un pseudo, on associe son vecteur et on regarde le pseudo dont le vecteur est le plus proche de ce vecteur-là, on a une machine à fabriquer des synonymes, complètement non supervisée. On a juste donné des données brutes du e-commerce. Et quand on tapait Yoda, ça sortait Obi-Wan.
Ah, c'est énorme.
À ce niveau de détail-là.
C'est fou.
Alors, Pitchounette, il y a des Choupinettes, enfin, plein de variantes, etc. Il y a des beaux gosses qui étaient avec des snipers, killers, dragons, etc. Et quand on voit ce niveau de résolution apparaître, de trucs qui sont hyper intuitifs, on comprend que c'est vraiment intelligent, quoi. Que c'est pas juste, ça les a fabriqués.
Donc il y a une vraie intelligence artificielle.
Il y a une vraie intelligence artificielle, ou en tout cas il y a une part de choses dont on croyait que c'était l'apanage de l'esprit humain, se rend compte que Marie Chantal, il y a peut-être un petit style derrière ce prénom, quoi.
Ouais.
Et ça, comment on l'a appris nous-mêmes. Mais finalement, ce genre d'apprentissage-là, on est capable aujourd'hui de l'imiter de manière assez frappante, en fait.
Ouais. Il se valide mathématiquement, en fait. Enfin...
Ouais, ça se valide. C'est, on va, un exemple concret, quand on avait ciblé, une des premières campagnes qu'on avait ciblées, c'était une campagne pour des mangas. Et on avait regardé parmi justement ces pseudos, quel était le pseudo qui était le plus déterminant de l'achat de mangas, et c'était Naruto.
D'accord.
Donc ça, enfin, comment ne pas valider ça ? On le valide à la fois intuitivement, parce qu'on voit les synonymes sont pertinents, et on le valide de manière beaucoup plus quantitative avec la mesure de la performance des campagnes.
Et alors du coup, en quoi tu penses que le machine learning, c'est le futur du marketing ? Enfin, Parce que, en fait, bon, déjà, pour commencer à faire du machine learning, il faut déjà avoir une base de données. Et ce que tu me disais, ce que je trouvais intéressant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de marques qui se posent cette question-là, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir une base de données clean pour pouvoir utiliser le machine learning, ou en tout cas ce que vous faites, vous.
Ouais.
Ça, c'est un truc qui, moi, me marque, parce que je pense que un des éléments les plus importants, évidemment, quand tu veux faire de l'intelligence artificielle ou du machine learning, c'est d'avoir une base de données. Et pour moi, dans ma tête, évidemment, il faut qu'elle soit clean, il faut qu'elle soit lisible pour que les machines elles puissent rentrer dedans, avec ma vision de non-mathématicien et de marketeur.
Oui, mais tu sais très bien que s'il faut 6 mois ou 12 mois et des consultants qui vont nettoyer les données avec un coton-tige pour que ça marchera jamais, parce qu'on ne le fera jamais.
Non, c'est ça, ça coûte trop cher.
Et s'il fallait que tu ne fasses pas de faute d'orthographe pour te servir de Google, tu ne t'en servirais pas. C'est un peu pareil. Dans le champ catégorie de la table produit, c'est pas rempli de manière homogène, régulière, etc. C'est pas très grave, parce que finalement, des différents variants que tu vas pouvoir mettre de la même catégorie avec des fautes d'orthographe, tous ces trucs-là, ils vont être détectés comme étant d'une sémantique assez proche. L'idée de pas s'appuyer sur des règles fixes, où il faudrait que les données soient propres, parce que si tu dis, je vends ce produit-là aux gens qui ont acheté un produit de telle catégorie avant, une règle comme ça, il faut que ce soit propre. Si tu dis, je vais apprendre parmi les 10 000 variantes de catégories avec toutes les fautes d'orthographe, lesquelles sont corrélées avec l'achat du produit que je veux vendre demain, tu vas trouver les 50 variantes orthographiques ensemble. Donc tu n'as pas besoin de les nettoyer.
D'accord. Donc du coup, un marketeur, il pourrait utiliser du machine learning sans avoir besoin de nettoyer ses bases, simplement il faut qu'il ait des bases.
Faut que les données soient quand même dans des tables.
Oui, un format, si c'est un fichier Excel, c'est plus compliqué.
Mais il n'y a pas besoin qu'il n'y ait pas de doublons, il n'y a pas besoin que les nomenclatures soient complètement rigoureuses, tous ces trucs-là, c'est heureusement, parce que c'est juste infaisable d'avoir des données propres.
Alors du coup, vous bossez pour des e-commerçants ?
On a commencé par des e-commerçants. On bosse aujourd'hui pour 4 des 5 plus gros e-commerçants français.
D'accord.
On bosse aussi pour des retailers qui ne sont pas des purs e-commerçants, comme des Fnac, des gens comme ça. Ces deux dernières années, on s'est beaucoup diversifié, aussi bien auprès de marques de vêtements, par exemple Lacoste, Cyrillus, et beaucoup, beaucoup dans le voyage, aussi bien voyage SNCF que Club Med, que des compagnies aériennes.
Et comment tu peux... Enfin, qu'est-ce que tu peux faire pour eux, sans prendre d'exemple spécifique?
En fait, ils ont un problème qui est le même problème business, en fait. Qu'on soit Club Med ou Lacoste ou la Fnac ou vente privée, on va avoir un problème qui est d'avoir une grande base de clients existants qu'on a payé très cher pour acquérir et on veut que ces clients reviennent. Donc, on a
Et qui dépensent beaucoup d'argent.
Et qui achètent. Et en fait... Il y a une illusion qui est celle du data-driven marketing basée sur la prédiction exacte du comportement en captant une intention. Ça marche très bien quand quelqu'un vient sur le site, il voit un produit, on va le retargeter. Ça marche très bien, le problème c'est que parmi les millions de clients, il y en a peut-être 1% qui vient sur le site. Donc tout l'enjeu du marketing et du CRM, ça va être d'aller chercher les 99% qui ne sont pas venus. Et les logiques qui s'appuient sur ce qu'ils ont fait la dernière fois qu'ils sont venus, elles ne marchent pas. Si tu es venu voir de la crème solaire en juin dernier, ce n'est pas le moment de t'en proposer. Ouais. Tu as vu un iPhone 6 il y a 2 ans, ce n'est pas le moment de t'en proposer, tu ne vas pas t'en acheter un. Du coup, ils font de l'animation commerciale. Ils mettent en scène leurs sorties produits, leurs promotions, les produits qu'ils ont en stock, ou dans l'hôtellerie notamment, s'il y a des hôtels qui ne sont pas remplis, on va faire des promotions dessus. Il peut y avoir des partenariats de trade marketing. Il y a toute cette communication qui est vieux comme le monde, en fait.
Oui,
c'est le plan d'action, le plan d'animation commerciale.
Voilà. Le plan d'animation commerciale.
Exactement. Ouais. Et du coup, nous, ce qu'on leur permet de faire, c'est de structurer intelligemment et de cibler intelligemment pour chaque message qu'ils veulent envoyer. On va identifier peut-être les 5 ou 10% dans leur base qui est la cible pertinente pour ce message.
Et est-ce que tu peux le faire à l'envers, c'est-à-dire définir qui sont les cibles les plus pertinentes pour qu'on puisse définir les messages qui correspondent?
Alors en fait, ce qu'on peut faire, c'est détecter des trous dans la couverture et dire, parmi les différentes catégories, je sais pas, vous avez 60 catégories, mais en fait, cette catégorie-là est susceptible d'activer des gens que vous avez tendance à pas activer.
Donc, tu as un exemple? J'aime bien prendre des exemples parce que je trouve que c'est plus parlant pour les écoutes, parce que en particulier quand on parle de machine learning et que ça peut devenir assez...
Si tu... sans dévoiler d'exemples, d'exemples confidentiels, mais l'idée, c'est par exemple un retailer qui aurait une vingtaine de catégories de produits. Mm-hmm. Il va faire son plan d'animation commerciale. Donc il va avoir, je sais pas, la sortie de l'iPhone, la nouvelle BD qui sort sur tel truc, etc. Donc déjà, il a à la base un plan de départ où il est capable de dire bah, ça s'adresse à cette partie-là de sa base, ça s'adresse à cette partie-là de sa base. Quand s'il fait son plan normalement, déjà, il va pour le cibler, ce qui est bien, il va peut-être se rendre compte qu'il y a des gens qui ne sont pas trop contactés. Ils vont être capables de savoir aussi qui sont les gens, enfin, parmi les gens qui ne sont pas contactés, quel type de catégorie de produits serait susceptible de les cibler.
D'accord.
Donc, finalement, c'est un marketing qui revient où la part du travail du marketeur est vraiment dans la création de l'offre et du message. Et ça, c'est un truc auquel on croit beaucoup. On ne croit pas que le travail du marketeur va disparaître avec des algos qui vont tout faire de manière automatisée. Ça ne marche pas, en fait.
Ça ne marche pas.
Il y a une partie qui est automatisée, c'est tout ce qui était l'espèce de sociologie un peu expérimentale du marketeur qui va dire les sacs à main, c'est pour les femmes entre 25 et 45 ans. En fait, on ne sait pas pour qui sont les sacs à main. On va identifier que ce sac à main, il va plaire à telle personne, pour des tas de critères compliqués, mais notamment des hommes qui vont soit vouloir l'offrir, soit vouloir le garder pour eux-mêmes, pour faire ce qu'ils veulent, en fait. Donc, l'idée des cibles marketing, ça s'automatise. Par contre, les offres.
Mais du coup, ce que tu dis, c'est même pas que ça s'automatise, c'est-à-dire que tu exploses les cibles marketing. Parce qu'en fait, tu dis finalement, il n'y a pas de cible marketing. En fait, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Et par contre, il y a des patterns. On peut voir que cette personne-là, parce qu'elle a fait ci, et qu'elle a fait ça, et qu'elle a tel âge, et qu'elle habite tel lieu, et qu'en fait, on retrouve une pattern, bah, qu'elle est la plus susceptible d'acheter le produit.
Finalement. Exactement. C'est ça. En fait, c'est exactement ça qu'on fait. Ouais. En fait, un exemple qui m'avait frappé, c'était un exemple de jeu vidéo, où le même jeu vidéo, c'était un jeu vidéo FIFA.
Ouais.
Et les jeux vidéo FIFA, ils sortent à l'été.
Ouais.
Au mois d'août.
Okay.
Et le pattern de ceux qui achètent le jeu vidéo au moment où il sort, c'est en fait des gamers vraiment
hardcore,
très hardcore. Ouais. Par contre, début décembre, c'est plutôt des femmes de 40 ans. Et à l'été d'après, c'est plutôt des gamins de 15 ans qui vont se l'acheter quand il est en baisse de prix avant la sortie de l'édition suivante.
Ouais.
Et du coup, le segment FIFA, il n'existe pas.
Ouais.
Le segment jeu vidéo, il existe encore moins. C'est pas des trucs qui marchent, qui sont stables dans le temps. En fait, ça bouge. Les marques, les produits bougent, les styles urbains bougent. On sait très bien que Lacoste, à un moment donné, ça voulait pas dire la même chose que ce que ça voulait dire dans les années 50.
Bien sûr.
Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder à un moment donné. C'est un ciblage aujourd'hui. On va s'appuyer sur les quelques dizaines de personnes qui ont acheté le produit au cours des dernières semaines. Et à partir de ces gens-là, parmi une base de plusieurs millions de personnes, on va apprendre, sans préjugés, la bonne cible pour ce produit en ce moment.
En fait, tu fais une régression et c'est ce que tu définis.
On fait une régression, mais toute la subtilité, c'est que si on fait la régression sur les données brutes, ça ne marche pas, pour des questions de surapprentissage et d'échantillonnage. Par contre, si on l'a fait sur cette sémantique latente, qu'on a apprise avec du machine learning non supervisé multicouche, on a fait un résumé de tellement bon niveau de ce qui a du sens dans les données que la régression marche super bien.
Alors, est-ce que tu peux expliquer, parce qu'en fait, c'est un mot qu'on a utilisé tout à l'heure, mais avant qu'on commence le podcast, l'intelligence artificielle, le machine learning non supervisé.
Ouais.
Parce qu'en fait, de base, effectivement, on a tendance à vouloir le superviser.
Ouais.
C'est quoi le machine learning?
En fait, on va le superviser à la fin.
D'accord.
Je prends l'exemple de mon jeu vidéo FIFA.
Ouais.
Quelle est la cible du jeu vidéo FIFA?
Ouais.
La manière à l'ancienne, mais il faut pas se tromper, hein, 95% des boîtes de tech qui prétendent faire du machine learning font ça, en fait. On va dire, ben, on a des acheteurs de FIFA, et on va regarder parmi plein d'attributs numériques qui existeraient, je sais pas moi, l'âge, le montant dépensé, quels sont les bons prédicteurs du fait d'avoir acheté ou pas avoir acheté FIFA. On va calculer une probabilité en fonction de ces paramètres numériques qui préexistent. Ça marche très bien quand il y a quelques paramètres. Mais quand il y a quelques paramètres, c'est forcément des paramètres très grossiers. Parce qu'on ne va pas résumer toute la complexité d'une base CRM avec 10 ou 20 ou même 50 ou 100 paramètres. Le problème, c'est quand on augmente le nombre de paramètres, ça se casse. Parce qu'on a des problèmes d'échantillonnage. On n'a pas assez de données pour apprendre tous les coefficients. On ne va pas apprendre avec 50 acheteurs un million de coefficients.
Ça
ne marchera pas.
Ça marchera.
Donc, l'approche qu'on a, nous, c'est de travailler avec des couches non supervisées intermédiaires. Au lieu de prendre les données brutes et les confronter à l'achat de FIFA. On va commencer par regarder les données brutes dans toute leur complexité, toutes les dimensions du dataset. C'est une énorme base de données relationnelle. Mmh. Et on va utiliser des classes d'algorithmes dits non supervisés, mmh, auxquelles on va dire « apprends des choses », mais sans leur dire « apprendre quoi ».
D'accord.
Apprends, est-ce qu'il y a une sociologie des prénoms ? Est-ce que la nomenclature produit, elle a une structuration implicite avec des thématiques ? Est-ce qu'il y a des styles de produits ? Est-ce qu'il y a des produits pour hipster ?
Ouais.
Mais sans faire entrer le concept de hipster. Est-ce que tu peux détecter une centaine ou un millier de styles parmi le catalogue produit qui soient pertinents sociologiquement ? Et puis quand on va regarder ce que la machine a détecté, elle aura détecté qu'il y avait un style de hipster, en fait. Mais ça, on ne l'aura pas fait rentrer. Donc on commence par faire ça, cette phase non supervisée sur les données brutes, mmh, et on assemble toute la connaissance pour faire un résumé de tout ce qu'on sait sur chaque personne en fonction de tous les data points qu'on avait à chaque moment du temps.
Et ça crée quand même des groupes qui sont...
Parce qu'en fait, c'est pas vraiment des groupes, ça reste des abstractions numériques, c'est plutôt des vecteurs. Mmh. On peut plutôt penser qu'on va associer à chaque personne un certain nombre de coordonnées qui disent, tiens, lui, il achète des produits pour hipster. Ce genre de truc.
Okay. Ah oui, non, mais après, ça, c'est ouais, du pur e-commerce. Mais moi, c'est parce que je pense campagne, parce que je suis marketeur.
Ouais, mais tu vas penser campagne aussi. Le type, il a cliqué dans le lien numéro 23 de la newsletter qui a été envoyée il y a deux semaines. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça dit sur lui ? Mm-hmm. Évidemment que personne n'a une nomenclature propre de ces newsletters. On ne sait pas ce que c'était, ce lien-là. Mais mm-hmm, on va apprendre que la sociologie des gens qui ont cliqué dans le lien numéro 23 de la newsletter d'il y a deux semaines dit un truc en commun. Mm-hmm. Et en fait, j'en sais rien, moi, c'est un produit que les gens qui ont tel problème de santé ont tendance à acheter, par mmh, exemple.
Mmh. Oui, par exemple.
Ou c'est pour les gens qui sont insomniaques, voilà, j'en sais rien. Mais c'est pas forcément un traitement d'insomnie, c'est peut-être un truc que les gens font la nuit, j'en sais absolument rien. Mais à partir du moment où on va regrouper plein de data points différents sous un contexte sémantique pertinent, on a réduit la complexité du dataset. Mmh. Et c'est ça la force du machine learning non supervisé, c'est qu'avec des données brutes extrêmement grandes, extrêmement hétérogènes, pas du tout normalisées, avec beaucoup trop de dimensions, on va réussir à en faire un résumé, comme quand on, nous humains, on porte un regard sur la société, on sait que bah il y a des
oui,
styles urbains,
des normalités,
on voit
des styles urbains. Ouais, tu sais que parce que il a, j'en sais rien, des Stan Smith,
ouais, ou il est habillé tout en noir, il a un lugubre, hein. Ça dit un truc sur lui aussi. Ouais, et c'est ce genre de choses vraiment qu'on capture. Donc c'est vraiment très intuitif, mm-hmm, mais c'est fait de façon automatisée. Et sur ce résumé-là...
C'est ça qui est fou, c'est intuitif, automatisé, quoi.
Ouais,
c'est deux mots qui sont un petit peu...
En fait, c'est de l'intuition artificielle, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de l'intuition artificielle. Et ce résumé-là, il est suffisamment compact, mm-hmm, comme nous, notre regard sur la société, on sait qu'il y a les classes sociales, on sait qu'il y a les styles urbains, on sait tous ces trucs-là, et ça nous permet de penser plus rapidement, ça nous permet de comprendre les interactions dans la rue beaucoup plus simplement.
Oui, bien sûr.
Ben, ça va faire la même chose, et là, sur ce résumé-là, le problème de régression... de savoir qui est acheteur de FIFA ou pas, devient beaucoup plus simple.
Mais alors du coup, toi ce que tu me dis, c'est que le plan, il n'y a pas de plan, quoi. Parce qu'en fait, est-ce que les gens, ils apprennent, parce qu'en fait ça peut sembler étrange, mais les gens, ils vont apprendre du machine learning pour se dire, bah tiens, en fait, je n'avais pas réalisé, mais en fait, les gens qui achètent ce produit-là à telle période, ce sont plutôt ces gens-là, et du coup, je vais les cibler, alors ça peut être online, mais ça peut être aussi, tu vois, par des circuits plus traditionnels, en boutique, par exemple, comment tu répercutes ça en boutique Ça peut être ça.
Ouais. Bah, le plan, ça reste le plan marketing, en fait.
Ouais.
Et en fait, de toute façon, une marque, elle n'a pas une infinité de choses à proposer. Elle a des produits, elle a des moments forts, elle a des promos.
Oui, puis il y a des temps forts, il y a des marronniers.
Voilà. Donc nous, ce qu'on suppose comme point de départ du marketing, c'est que le marketing a un plan d'action. Et c'est ce plan d'action qu'on va optimiser. Et ça donne une répartition des rôles un peu différente, en fait. Donc le marketeur arrête d'être un sociologue amateur. Par contre, il devient un vrai marketeur. C'est qu'il va pouvoir aussi intensifier son plan d'animation commerciale, notamment parce que ça devient possible de parler de produits de niche qui vont intéresser peut-être 5% de la base. Mmh. Avant, il s'en privait parce qu'il ne savait pas lesquels, il ne savait pas identifier les 5%. Maintenant qu'il sait les identifier...
Oui, et puis l'effort aussi que ça demandait de cibler 5% de la base était tel que du coup, ça
allait être pas de
cibler.
S'il faut attendre deux semaines que le département analyse, livre la cible de la campagne, on ne la fait pas.
Ben non.
Alors que là, c'est en quelques minutes de façon interactive, on peut même tester, on dit tiens, si je faisais une campagne là-dessus, ça toucherait qui ? Et en quelques minutes, on a la réponse, on se dit bah, tiens, je vais aller la faire. Et un truc assez marrant, c'est de voir comment ça change aussi la relation entre le marketeur et les catégories managers et ce genre de gens.
Parce qu'il y a ça aussi. Moi, je pense que les marketeurs, c'est... Enfin, à la base, quand... pas tous, hein, évidemment, mais il y a beaucoup de marketeurs qui ne sont pas hyper fans de la data. Il y a beaucoup de gens qui ont fait du marketing parce qu'ils adoraient la créa, etc., etc. Donc, quand tu leur parles de data, ils te regardent un peu les yeux grands ouverts et ils sont un peu perdus. Et quand tu me dis, bah, tiens, si on ciblait machin truc, tu peux... Enfin, devant le... C'est comme d'être au restaurant chinois, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a tellement de... Bah, dans le menu, il y a tellement de choses que tu ne sais plus par où tu commences. Est-ce que vous accompagnez, enfin comment ça marche? Parce que du coup, tu accompagnes les gens dans leur, dans la, enfin pour faire des tests ou...
Ouais, ben on a encore une fois, comme la méthode est assez abstraite, ouais. Il faut évidemment la tester qu'elle marche en vrai. Ça,
oui, c'est,
c'est donc on sait que ça marche. On a aujourd'hui environ 70 clients qui sont pas mal de très belles marques qui ont testé, mesuré des uplifts, fait des cas clients. Donc pour répliquer ces succès chez nos nouveaux clients, on a une équipe de Customer Success qui partage les bonnes pratiques.
D'accord.
Mais finalement, le ce qui devient intéressant, c'est qu'on parle de marketing. On ne parle pas de data. Enfin oui, il y a un setup data à faire au début. Mais le gros du sujet, c'est avoir un plan d'action commercial qui est intelligent, qui se nourrit des vraies opportunités. Rétablir le dialogue avec les catégories managers. Parce que pendant des années, les types du CRM ont dit « Non, je ne parlerai pas de ton produit dans ma newsletter parce que je n'ai pas la place. » Et là, au contraire, on leur dit « En fait, tu sais quoi ? Si tu as des produits intéressants, je vais pouvoir en parler parce que je vais pouvoir identifier les gens. » Donc, c'est plutôt ce...
T'envoies une newsletter par personne ou quoi ? Enfin, par personne, pas exactement, mais...
Tu crées de la diversité. Tu vas là où tu avais une newsletter qui était la même pour tout le monde. Tu vas pouvoir ajouter des messages ciblés, 3-4 messages par exemple, dans une semaine, où tu vas toucher des sous-segments qui ne vont jamais être les mêmes, en fait, de ta base.
D'accord. Et du coup, vous avez des chiffres ? Enfin, ça marche ?
Ah, ça marche très, très, très bien. Chez certains de nos clients, il y avait des équipes de data science qui étaient en place pour faire des modèles prédictifs. Ça mettait typiquement une semaine à sortir un modèle. Quand on est testé en A/B test frontal face à des ciblages faits pendant une semaine par des humains, nous c'est en quelques minutes de façon automatisée, on gagne les A/B tests avec typiquement plus 50%, parfois plus. La fourchette, je crois que c'est entre plus 30 et plus 250%, ce qu'on a observé.
Ah,
avec des exemples chez Voyage SNCF qui avait une pratique assez avancée, on était à plus 115%.
Ouais.
Ce qui est en revenu, hein. On ne parle pas de clics, on parle de revenus, de revenus par message envoyé.
C'est pas mal.
C'est correct.
C'est correct. Et alors ce podcast, il s'appelle Vlan. À qui ou à quoi tu voudrais claquer la porte aujourd'hui ?
À la ménagère de moins de 50 ans, en fait. Au fameux segment. Enfin, moi, quand j'étais adolescent, on parlait de la ménagère de moins de 50 ans et c'était l'espèce d'ennemi public numéro un. je croyais que le marketing, c'était ça et ça me paraissait complètement débile. Enfin, ça n'existe pas, une ménagère de moins de 50 ans.
Non.
Et puis, il y a la variante big data de la ménagère de moins de 50 ans qui va être la ménagère de moins de 48 ans et demi qui a 2,4 enfants et qui habite dans tel code postal et qui est CSP++ ou je ne sais quoi. En fait, les gens ont cru qu'avec le big data, on allait faire des règles arbitraires encore plus compliquées, encore plus arbitraires.
Ouais.
Et la beauté des algos comme ceux qu'on utilise, c'est qu'on se rend compte qu'on peut jeter tous ces trucs-là. On n'en a pas besoin, en fait.
Ouais.
C'est pas pertinent, ça marche pas super bien, et surtout, on n'en a pas besoin.
Ouais, parce que du coup, ça le fait tout seul.
Ouais. Et puis ça dépend. Chaque jour, pour chaque offre, pour chaque message, en fait, ça va être des segments différents.
C'est abstrait, hein. C'est compliqué, mais c'est hyper intéressant.
Mais ça marche.
Et ça marche.
Déjà bien.
C'est surtout ça qui est important. Merci beaucoup.
Merci.
Merci d'avoir écouté Vlan, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.